Chers amis mélomanes, bonsoir. Voici Opéra Gora, votre émission mensuelle sur l'opéra. Christian Segarici, votre serviteur, chef d'orchestre d'opéra, directeur d'opéra, ainsi que notre metteur en onde, Nancy Zottier, sont à leur poste. Et voici ce soir Turandot. Après avoir composé son triptyque La Bohème, La Tosca, Madame Butterfly, à partir de romans réalistes, avec des personnages pleins d'humanité, Puccini termine son œuvre lyrique avec un conte féerique. Probablement avait-il fait le plein d'émotions du style vériste qu'il a véritablement inventé et développé. Suivi par des adeptes comme Mascagni, Léon Cavallo ou encore Chilea, Turandot, son œuvre ultime qu'il n'a pas pu terminer et qui a vu le jour grâce à la terminaison de son élève Franco Alfano. Turandot est un opéra inspiré par les contes féeriques de Carlo Gozzi, dramaturge du XVIIIe siècle, spécialisé dans les fables extrême-orientales. Il est également l'auteur de La femme serpent et L'amour des trois oranges. On pressentait que Puccini voulait maintenant affronter les grandes fresques musicales avec orchestre géant et mise en scène à grand spectacle. Il avait déjà essayé ce genre avec La fanciulla dell'Ouest, c'est-à-dire la fille du Far West. Et son imagination avait besoin maintenant d'un moment de féerie et de légende de l'inaccessible princesse chinoise Turandot, refusant l'amour terrestre et se barricadant derrière les trois énigmes quasiment insolubles qui la protègent d'un mariage avec un prince oriental. C'était exactement ce qui convenait à la nouvelle inspiration de Puccini. Après quelques essais infructueux, comme Edgar ou I Villi, qui ont connu des succès d'estime à la fin du XIXe siècle, Puccini produit à partir des années 1890 son œuvre maîtresse. Cinq grands opéras qui feront sa gloire et sa fortune. Cinq grands chefs-d'œuvre, toujours inscrits au Panthéon, des titres d'opéra encore joués dans le monde entier et semble-t-il de plus en plus appréciés par un public toujours plus avide de drames musicaux au romantisme puissant, mais à l'accès facile. Point n'est besoin d'être un grand musicologue pour apprécier ces chefs-d'œuvre. Il suffit de suivre les belles mélodies et de se laisser guider par l'émotion. Le premier titre à succès était Manon Lescaut, d'après le roman de l'abbé Prévost, ouvrage qui a également inspiré Massenet, qui lui aussi a composé une sublime Manon. Puis nous avons eu la célèbre trilogie Fin de siècle, dont nous avons longuement parlé avec Nancy, La Bohème, d'après les scènes d'Henri Murgère. Madame Butterfly, d'après une pièce de théâtre de David Belasco, et enfin La Tosca, d'après la pièce de Victorien Sardou. Et pour terminer, voici donc le conte oriental inachevé, Turandot, terminé par Franco Alfano, élève de Puccini. L'intrigue en est la suivante. Dans le Pékin de l'antique cité interdite, le vieil empereur présente sa fille, Turandot à des prétendants courageux qui devront résoudre trois énigmes. Mais, en cas de mauvaise réponse, ce sera la mort par décapitation, à la grande joie du peuple féroce qui réclame le spectacle du sang et de la violence. Beaucoup de prétendants ont déjà perdu la vie dans cette confrontation. Mais voilà que se présente un inconnu, déguisé en mendiant, mais qui est en réalité le prince Calaphe. Flanqué de son vieux père aveugle, Timour, et de la jeune esclave Liou, amoureuse en secret du prince et aide du vieil aveugle. Alors, est-ce que ce prétendant nouveau sera capable de résoudre les trois énigmes ? C'est ainsi que débute l'opéra. L'action est directe, sans aucun prélude d'orchestre ou ouverture. D'ailleurs, c'est ainsi que pratiquait Puccini dans tous ses opéras. L'action, tout de suite. Ainsi, nous l'avons vu dans les émissions précédentes. La foule impitoyable attend de voir apparaître la lune, car ce sera le signal de la décapitation du malheureux prince de Perse, prétendant qu'il n'a pas su résoudre les énigmes. Et la glaciale princesse Turandot n'apparaîtra qu'au deuxième acte. C'est d'ailleurs tout à fait nouveau dans l'opéra. Mais le rôle est tellement lourd que personne n'aurait pu tenir trois périodes complètes, trois actes complets d'opéra. Un cœur merveilleux de mystère et d'impressionnisme nous met dans l'ambiance de cette attente cruelle. Écoutons ce cœur, l'invocation à la lune. Thank you. C'est une merveille vocale, pleine de délicatesse, mais les paroles en sont très cruelles. Le peuple appelle le bourreau Poutine Pao, qui aiguise son grand sabre. Au passage, je ne peux m'empêcher un trait d'humour noir. Puccini avait-il déjà, en 1924, la révélation prémonitoire qu'un siècle plus tard, un autre bourreau authentique s'appellerait Poutine? Vraiment, il n'y a pas de hasard. Fermons la parenthèse. Face aux sanguinaires qui demandent la tête du prince étranger, des voix féminines s'élèvent pour demander sa grâce. Il est si jeune, et curieusement, un cœur d'enfant se mêle à la cérémonie, apportant l'innocence et la pureté face à la barbarie du bourreau Poutine Pao. Tout cela soutenu par une orchestration d'un raffinement extrême, une merveille. Apparaît alors l'esclave Liu, qui accompagne le vieux Timur complètement aveugle. Tous deux tentent de dissuader le prince Calaf de participer aux terribles épreuves, les trois énigmes qui conduisent au mariage avec Turandot ou à la mort par décapitation. Liu est amoureuse en secret de Calaf. Elle le supplie de renoncer au défi dans un air magnifique, plein de délicatesse, réservé au soprano léger, à la voix pure et aérienne. Écoutons cet air très puccinien. Signor ascolta, Seigneur, écoute-moi, ne va pas au défi. Très court et très tendu, avec bien sûr le parfum extrême oriental, discret, que Puccini sait distiller à merveille. Mais, malgré les larmes de Liu et la mise en garde des trois dignitaires Ping Pang Pong, qui évoquent la longue litanie des prétendants décapités, Calaf ne change pas d'avis. Le bourreau Poutine Pau arbore alors la tête coupée du prince de Perse. Rien n'y fait. Calaf, courageusement, poursuivra son destin et ira aux épreuves. Il veut rassurer Liu. Ne pleure pas, Liu. Tu verras, je réussirai, lui déclare-t-il dans un très poignant air pour ténor. Non piangere, Liu. Ne pleure pas, Liu. Écoutons.
Non piangere, Liu. Sei nul lontano giorno. Io ho sorrido per quel sorriso dolce mia fanciulla. Ma ascolta il tuo signore sarà domani forse solo al mondo. Non lo lasciare portalo via con me.
Noi morremo sulla strada del desiderio.
Noi morremo del desiderio, addolcisci a lui le strade. Questo
approchons du final du premier acte. L'art de Puccini, pour les airs de ténor, n'est plus à démontrer. Depuis Manon Lescaut, avec Donna non vidi mai, ou encore Che gelida manina de la Bohème, suivi de l'incontournable Lucevano le stelle de Tosca et Fiorito Asil de Madame Butterfly, Puccini, dans des morceaux très courts et très tendus vers les extrêmes aigus, a gâté les grands ténors avec des musiques très faciles à retenir pour le public, qui les a toujours applaudis et souvent bissés. On admire comment, à partir de la voix du ténor soliste, se développent ensuite toutes les parties vocales autour, jusqu'à l'apothéose finale, avec les cuivres rutilants qui se glissent dans la masse sonore en la transperçant comme des éclairs de lumière. Ainsi s'achève ce premier acte de Turandot. Notons que la princesse de glace, qui est le rôle principal de l'opéra et qui donne même le nom à l'opéra, Turandot, eh bien, la princesse n'est toujours pas apparue. C'est rarissime dans le monde de l'opéra de ne faire apparaître l'héroïne principale seulement au deuxième acte. Décidément, ce Puccini est un novateur dans l'âme. Nous voici donc au deuxième acte, qui débute immédiatement avec les trois dignitaires Ping, Pang, Pong, qui résument ce que fut le règne de Turandot, c'est-à-dire une succession de décapitations des prétendants incapables de résoudre les trois fameuses énigmes. Chacun envisage de se retirer maintenant dans une retraite bien méritée et moins sanguinaire. Ces braves ping-pong-pong en ont assez de cette boucherie et ils veulent prendre tout simplement leur retraite. L'orchestre, très rythmé et coloré, à la mode orientale, développe donc un trio vocal très difficile et contrasté en suivant les rêves des trois dignitaires chantés par deux ténors et un baryton. Ce sont là des rôles réservés à d'excellents musiciens solfégistes, car la mise en place est vraiment difficile. Et généralement, les chanteurs ne sont pas habitués à ce genre de composition. Quant à moi, j'adore ce moment de l'opéra et je vous propose de l'écouter sous ma propre direction. Écoutons Ping, Pong, Pong.
Che fu onesto gorgo desta la reggia e desta la città. Come dormire. gioie come queste.
Le battute di come Dominelli.
E giù teste, e giù teste, e giù teste.
Siamo del boia, ministri del boia.
Mais voilà que sonnent les trompettes et enfin Turandotte apparaît. À l'opéra, c'est ce que l'on appelle une soprano dramatique, c'est-à-dire une voix extrêmement puissante et qui peut monter avec facilité dans les aigus les plus dangereux. Peu de cantatrices se sont attaquées à ce rôle. Beaucoup sont des chanteuses wagnériennes habituées à ces rôles surhumains qui exigent un investissement vocal et sportif hors norme. Il y a d'ailleurs seulement deux ou trois Turandottes par génération, capable de mener à bien ce rôle exceptionnel. C'est d'ailleurs un gros problème pour nous, les directeurs d'opéra, car si l'une d'elles que nous avons engagée est malade, ce sera une gageure pour la remplacer, alors que cela est beaucoup plus facile avec les autres rôles courants du répertoire. Turandotte arrive et immédiatement explique pourquoi elle est si violente avec ses prétendants et qu'elle veut absolument qu'ils échouent et qu'ils soient décapités. Eh bien, c'est parce que son aïeul, Louing, a été violé et tué par les hommes. Et maintenant, elle déteste les hommes et elle veut venger la pauvre Louing, l'aïeul. Cet air est immédiatement suivi par les épreuves de la résolution des trois énigmes mortelles. Écoutons avec attention cet air d'une difficulté énorme, où la puissance vocale doit surmonter le grand orchestre de 100 musiciens et où l'on décèle toute la tristesse générée par l'assassinat de Louing, la pauvre aïeule, puis une irrésistible montée vers l'extrême aigu de cette soprano dramatique, et ensuite le ténor qui intervient pour lui donner une réplique héroïque. Écoutons ce qui se fait de mieux dans cet air qui se termine par un duo. Écoutons Birgit Nilsson et Franco Corelli. In questa reggia, ce que l'on traduit par « dans ce palais ».
Stirpe, stirpe. principe Salone.
Voilà une débauche de décibels jusqu'aux contrutes des deux chanteurs. Et puis arrive enfin la triple épreuve des énigmes à résoudre. Première épreuve, Turandot récite. Dans la nuit sombre vole un fantôme. Tout le monde l'implore, mais il disparaît pour renaître chaque jour dans le cœur de l'humanité. Qui est-il ? Le prince Calaf réfléchit prudemment. Il sait ce qu'il encourt. Le bourreau Poutinpao avec son terrible sabre est déjà prêt. Et puis l'inspiration lui vient. Calaf répond, sûr de lui, ce fantôme, c'est l'espérance. Bonne réponse. Deuxième énigme. Turandot récite. Ardent comme la flamme, il est une fièvre impétueuse. Mais il se refroidit devant la mort. Qui est-il ? Suspense insoutenable. Le prince ne voit pas. Il hésite. Le peuple l'encourage. Liu tremble d'inquiétude. Et enfin, la réponse vient. L'inspiration. C'est le sang. Bonne réponse. Le sang qui brûle et qui se refroidit. Bonne réponse. Turandot est furieuse. Voilà déjà deux bonnes réponses. Alors que jusqu'à présent, aucun des prétendants n'avait fait une seule bonne réponse. Elle fait fouetter le peuple qui encourage le prince, puis récite la troisième et dernière énigme qui conduira ou à l'union avec Calaf, ou bien à la décapitation de ce dernier, en cas de mauvaise réponse. Turandotte récite « Le gel qui se transforme en feu, qui peut te transformer en esclave ou en roi. Qui est-il ?» L'orchestre merveilleusement dissonant et suspensif nous fait deviner l'embarras de Calaf. Des dissonances, des suspensions. Calaf réfléchit. Il a peur de se tromper, évidemment. Et puis, au bout d'une minute d'orchestre seul, avec une atmosphère de suspense à la Hitchcock, il s'écrie « C'est toi, Turandotte !» Bonne réponse, Calaf a vaincu. Turandotte a perdu, elle doit se soumettre, mais elle refuse de s'abandonner à l'amour d'un homme. Elle supplie son père, le vieil empereur, d'annuler le verdict. Mais en vain, celui-ci se soumet à la loi ancestrale que Turandotte a juré de respecter. Alors le prince Calaf se veut magnanime. Il se soumet, lui aussi, cette fois, au jeu et pose une énigme à Turandotte. N'oublions pas que Calaf est déguisé en misérable vagabond. Personne ne le connaît, personne ne sait son nom. Alors, il propose à Turandotte l'épreuve suivante. « Princesse, si tu arrives avant l'aube à découvrir mon nom et qui je suis, alors je me soumettrai et j'accepterai d'avoir perdu. » Turandotte n'en revient pas. Quel courage ! Bien qu'il ait vaincu les épreuves, maintenant il remet en jeu sa propre vie. Tout simplement avec un mouvement de téméraire héroïque. Turandotte s'enflamme. Elle ordonne à tous ses sujets de se mettre en quête du nom de ce prétendant. Attention, que personne ne dorme cette nuit. Que personne ne dorme. Cherchez partout. Demandez, je veux savoir le nom de ce prétendant. Et ainsi, il aura perdu. Nessun dorma, chantent les gardes dans la cité interdite. Ça veut dire « que personne ne dorme ». Et Calaf répond lui aussi « oui, oui, nessun dorma, que personne ne dorme, cherchez, cherchez mon nom ». Mais en vain, personne ne connaîtra ce nom et j'épouserai Turandotte. Et c'est bien sûr là que se situe le tube célébrissime de l'opéra, le fameux air pour ténor, Nessun dorma. Écoutons Pavarotti nous régaler. Nessun dorma.
Oh. principessa nella tua fredda stanza.
Cette musique magnifique, une orchestration tout en dentelle, un thème intense qui serpente puis s'élève peu à peu jusqu'à l'extrême aigu. Vincerò, je vaincrai. Voilà ce que nous dit sur un si naturel, très haut perché, le ténor. Je vaincrai et vous ne trouverez pas mon nom. Et maintenant, l'aube arrive, et personne n'a découvert l'identité de ce prince inconnu. Et donc, Turandot a perdu la partie. Ou presque. Car les dignitaires Ping-Pong-Pong ont une idée. Le prince inconnu est accompagné par Liu, sa jeune esclave. Elle connaît forcément son nom. Il suffit de l'interroger. Et l'interrogatoire va vite se transformer en torture. Liu ne veut rien dire et résiste jusqu'au dernier moment. On la torture et elle chante son dernier air à l'intention de Turandot. Elle lui dit qu'à cause de sa cruauté, eh bien, toute princesse qu'elle est, elle ne connaîtra jamais le bonheur d'être aimée, le vrai amour sur terre, cette princesse de glace si cruelle. Turandot, furieuse, la fait torturer, la fait fouetter. Mais Liu, à la fin de son air, prend le poignard de l'un des gardes et se suicide, sans dire le nom du prince. Écoutons cet air poignant. Tu che di gel sei cinta, toi qui es revêtu de glace. Écoutons. Cet air lugubre a, hélas, une double portée sinistre. Car, bien sûr, c'est la mort de Liu, la jeune esclave. Mais c'est surtout là que Puccini laisse tomber sa plume, assailli par une attaque au cerveau. Et il meurt sans terminer son chef-d'œuvre. Heureusement, son élève dévoué, Franco Alfano, a conservé les esquisses du dernier acte. Et c'est lui qui terminera l'opéra, en se servant fidèlement des thèmes de Puccini. Mais sans réussir vraiment l'orchestration du maître, qui est parfois trop puissante. Et nous, les chefs d'orchestre, sommes obligés parfois d'alléger l'épaisseur de cet orchestre en changeant des nuances, en supprimant même des instruments. Et l'élève n'est pas le maître, c'est bien connu. Néanmoins, la collaboration d'Alfano est une réussite et l'opéra se joue partout en intégralité. Dans cette dernière partie, Calaf, extrêmement impressionné par le sacrifice héroïque de l'esclave, la petite Liu, qui vient de se suicider afin de sauver la vie de son maître, eh bien, tout d'un coup, il est lui-même transporté par un sursaut d'héroïsme sacrificiel et il décide lui-même de divulguer son nom et donc de perdre la partie finalement et la vie par la même occasion. Il va dire son nom, il va dire qui il est, mais auparavant, il attrape Turandot, la saisit et l'embrasse avec force dans un long et interminable baiser. Alors, Turandot découvre enfin l'humanité. Et la princesse de glace découvre l'amour terrestre. Elle s'écrie à son père « Je connais maintenant le nom de l'étranger, c'est l'amour. » Et le grand cœur ponctue sur ces mots pleins d'optimisme et d'espérance. Amour, soleil, vie, éternité. Et voilà enfin un opéra de Puccini qui finit bien. Écoutons ce moment grandiose, c'est la scène finale. Et je vous laisse écouter et vous régaler. Ainsi s'achève le Turandot de Puccini. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission, probablement avec Verdi. Merci de votre grande fidélité. Bonsoir.